Et vous écoutez France Culture. Au fond d'un trou vivait un hobbit, John Ronald Reuel Tolkien. Et pas d'erreur, c'est une légende. C'est par cette phrase lapidaire et énigmatique, notée à l'envers d'une copie d'étudiant, que s'offrit en 1937 l'aventure éditoriale et littéraire d'un calme professeur d'Oxford, épris de dessin et de philologie anglo-saxonne, paisible père de famille. Une exposition ample et méticuleuse lui est consacrée à Paris, à la BNF, visite guidée de l'univers de Tolkien. C'est ce soir, dans Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui ce soir eh bien, est l'hôte de la Bibliothèque Nationale de France, site Mitterrand pour cette exposition Tolkien, et je serai avec bien évidemment Vincent Ferré. Bonsoir Vincent Ferré.
Bonsoir François Angelier.
Je suis avec Roland Lehoucq, comment va-t-il ?
Très bien monsieur Angelier.
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était aux Utopiales, où 100 000 personnes faisaient exploser les limites du local. Ce soir, on est un peu moins quand même, mais ma foi, il y a énormément de visiteurs à cette exposition Tolkien.
Oui, c'est ce que j'ai pu constater en la visitant moi-même personnellement il y a quelques semaines. Il y a énormément de monde et c'est une très belle exposition qui m'a beaucoup plu.
Et Loïc Mangin, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de Pour la Science, pourquoi êtes-vous là ?
Tolkien et la science, on va voir au fur et à mesure que c'était vraiment indissociable. Et ça fait l'objet d'un livre que j'ai co-dirigé avec Roland et Jean-Sébastien Steyer. Je pense qu'au gré de cette déambulation, on ne pourra que voir les nombreuses passerelles scientifiques qu'on peut tisser à partir de l'œuvre de Tolkien.
Voilà, en effet, Tolkien et la science, le lien n'est pas immédiatement évident, mais la chose est claire quand on a lu, en tout le moins parcouru abondamment, le livre publié chez Belin, Tolkien et les sciences. En effet, vous avez d'une certaine façon soumis la lecture de Tolkien à toute une série, un grand panel de scientifiques, et le résultat est totalement sidérant, puisqu'on voit qu'il y a capacité à Tolkien, qui semble un anti-moderne, on va en reparler peut-être, mais en tout cas à dialoguer dans la démarche et dans l'esprit avec le monde scientifique. Et pour l'heure, bien mauvais genre est à la BNF et en route pour l'univers de Tolkien. On passe d'abord, Vincent Ferré, dans une porte évidemment ronde. On entre chez les Hobbits.
L'idée était de permettre aux visiteurs, parce qu'on a pensé aussi à ceux qui n'ont jamais lu Tolkien, jamais ouvert un de ses livres, de s'immerger directement dans un univers qui nous appelle, quand on est lecteur, à oublier qu'il s'agit d'un univers merveilleux, imaginaire, sorti de l'imagination de son auteur. Donc présenter le monde des Hobbits, puis le monde des elfes, des nains, c'était une manière de décomposer cet univers, de montrer sa diversité, sa richesse, à travers un voyage qui est un petit peu mimétique de celui des héros du Hobbit et du Seigneur des Anneaux.
Évoquons d'abord l'exposition de manière générale. Vincent Ferret, ce qui marque quand on l'a visité, c'est à la fois quelque chose de flamboyant, d'extrêmement attrayant, mais en même temps de grave, puisqu'il n'y a que Tolkien, tout Tolkien, rien que Tolkien, uniquement Tolkien. Il n'y a pas les produits dérivés, il n'y a pas le cinéma, il n'y a pas la bande dessinée, il n'y a pas les petites figurines. On est dans le bureau du professeur Tolkien et dans la terre du milieu. Alors, la partie prise, quelle est la démarche qui a présidé à cette limitation, mais à cette concentration?
C'est lié à une discussion entre la BNF et la bibliothèque Bodléiane qui remonte à 2016. Moi, j'ai travaillé 3 ans et demi sur ce projet. À l'origine, la Bodléiane envisageait avec la BNF de proposer une exposition centrée sur les archives de la Bodléiane telle qu'elle a pu ouvrir finalement en juin 2018 à Oxford. Mais tout de suite, la BNF, et Thierry Grier en particulier, a décidé de réorienter l'exposition parce qu'on savait que faire venir l'exposition qui se préparait à Oxford, c'était ne proposer qu'aux fans de découvrir les trésors de Tolkien qu'on a déjà vus dans des livres reproduits. Alors que le souhait à la BNF, ça a été d'ouvrir l'univers de Tolkien au grand public, aux personnes qui ne le connaissent que de nom, qui ont vu les adaptations cinématographiques, ou les personnes de diverses générations à qui leurs petits-enfants ont pu parler des Hobbits. Bon. Donc Il s'est agi d'emblée en décidant de donner 1000 mètres carrés à cette exposition, de proposer aux visiteurs une sorte de médiation vers un univers qui n'est pas le nôtre. Parce qu'on sait que l'univers mental du médiéviste qui était Tolkien à Oxford est un univers qui doit beaucoup aux traditions nordiques, aux traditions anglo-saxonnes, qui ne sont pas les nôtres. Quand on pense Moyen-Âge en France, on pense Arthur, Charlemagne. Il s'agissait d'inviter les visiteurs à découvrir un autre univers, par exemple marqué par la figure de Beowulf. C'est un héros du poème le plus important de la tradition médiévale anglaise, un héros qui affronte des ogres, puis un dragon et qui meurt une fois devenu roi très âgé. C'est une figure fondamentale pour Tolkien. On verra tout à l'heure dans une salle le travail qu'il a réalisé sur ce texte-là. Et la Bibliothèque nationale, par exemple, possède une très belle édition qui a été imprimée sur les presses de William Morris, avec une dédicace de William Morris. Et il s'agissait pour la BNF de sortir des objets des collections, alors aussi bien les manuscrits que les imprimés, les arts et spectacles, la musique, les estampes, les cartes, pour dialoguer avec l'œuvre de Tolkien. Mais c'est un geste très fort. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais eu d'exposition sur un auteur étranger à la BNF avant cette exposition consacrée à Tolkien.
Une grande première. Donc, effectivement, la BNF apporte des manuscrits fort rares, manuscrits médiévaux, bien évidemment, mais également des calendriers sculptés, d'une certaine façon, des armes. Donc, il y a toute une manière de faire, et même un arc tartare, de faire résonner l'univers de Tolkien avec quelques richesses archéologiques. Vous êtes sensible à cet aspect, Roland Le Houc ?
Ah, bien sûr, ce qui m'a frappé dans l'exposition, c'est justement la variété des supports. Bien sûr, les supports iconographiques, les dessins, les pièces originales, évidemment, qui sont magnifiques. L'ensemble culturel qui va autour de l'œuvre de Tolkien. Et ça, évidemment, dans le travail que j'ai mené avec mes collègues pour faire des sciences, si j'ose dire, faire des sciences avec Tolkien, bien, c'est l'idée de se dire, eh bien, finalement, ce monde-là, il est extraordinairement riche. Prenons-le comme un carnet de voyage, finalement, plus qu'une aventure imaginaire. Prenons-le comme un carnet de voyage réel et essayons, à l'aune des sciences dont nous connaissons, que nous connaissons maintenant, des sciences dures, des sciences expérimentales, mais aussi des sciences humaines, de la psychologie, de la philosophie, de l'art. Essayons de comprendre le monde qui nous est décrit comme si c'était un monde réel. Et donc, moi, j'étais tout à fait sensible dans cette exposition de voir la multiplicité des supports et des objets, puisqu'on voit aussi des objets 3D, comme on dit, des épées, des cailloux, si on veut dire des cailloux, des gemmes, enfin, des choses qui brillent. Enfin, voilà, l'Arkenstone. Elle n'est pas dans l'exposition, mais enfin, elle pourrait y être. S'il l'avait, il l'aurait montré. Bref, etc. De voir tous ces objets-là, c'est évidemment, ça fait très plaisir et ça renforce l'ambiance générale dans laquelle on est très plaisant de l'exposition.
Loïc Mangin, effectivement, on voit là les débuts d'une certaine forme de science, les calendriers sculptés sur des épées en bois, c'est un peu la science du temps, la science des matériaux. Tout. On démarre avec Tolkien, c'est un peu la science des fondements.
Bah, Tolkien a vraiment construit un monde entièrement cohérent avec une histoire, presque une cosmogonie, enfin même pas presque, une cosmogonie. Et de la même façon qu'on peut faire de la science, de la cosmologie, de la botanique, de la zoologie, on peut aussi le faire dans le monde qu'a créé Tolkien. Et c'est effectivement ce qu'on se propose de faire dans ce livre, et de faire un peu de la science comparée finalement entre ce qui existe dans son monde à lui, dans son univers à lui, et ce qui existe dans le nôtre. Et les points communs sont très 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 nombreux, quelques divergences aussi, ce qui permet de faire de la science tout simplement, de la science comparée, et donc d'avoir un discours qui, j'espère, intéresse tout le monde.
Rassurez-vous. Dernier élément, Vincent Ferrand, on a l'impression que Tolkien a œuvré toute sa vie à préparer cette exposition, au sens où tout ce que vous montrez qui est de sa main est totalement parfaitement clair, propre, fait pour être exposé, puisqu'il remplit tout l'espace. Donc il y a évidemment des manuscrits, des cartes, des dessins, mais alors toutes les sortes de dessins, depuis des cartes au Père Noël qu'il faisait pour ses enfants, parce que le Père Noël adressait via leur père des cartes et des lettres aux enfants Tolkien, également des feuillets d'analyse linguistique et philologique. Donc il y a véritablement une sorte d'univers graphique d'abord, et manuscrit qui est présenté.
Certainement une des découvertes principales pour les visiteurs, c'est de voir que Tolkien a d'abord été un aquarelliste, un peintre, un dessinateur. Alors les exemples les plus célèbres, on les voit accrochés au mur, ce sont les illustrations du Hobbit en 1937, en noir et blanc et en couleur. À partir du moment où Le Hobbit est publié, Tolkien change un petit peu son fusil d'épaule et décide de ne plus faire paraître d'œuvres avec des illustrations de sa main. Donc du coup, les manuscrits suivants, ceux du Seigneur des Anneaux, contiennent des dessins à l'intérieur du manuscrit, mais à quelques rares exceptions près, dont le manuscrit de Mazarboul, le livre de Mazarboul, ça n'est pas fait pour être édité dans le livre. Mais vous avez raison, c'est un des paradoxes de cette œuvre, qui a d'abord une destination intime, un public familial, puis pour Le Seigneur des Anneaux, qui est une histoire pour les adultes, son fils, qui est pilote dans la Royal Air Force en 44, ses amis très proches, dont C.S. Lewis, ou les amis qu'il retrouvait au pub à Oxford, après sa journée de cours, et à qui il lisait les pages qu'il avait écrites la nuit précédente. Donc c'est une œuvre qui est adressée à lui-même, à ses proches, à ses amis, mais qui a touché un public, justement peut-être parce qu'elle ne correspondait à aucune commande. Il faut rappeler l'ironie de l'histoire, c'est que Tolkien donc invente le Hobbit comme une histoire parmi d'autres pour ses enfants. Le livre est publié par hasard, par accident. Son éditeur, voyant le succès, lui demande la suite et Tolkien explique qu'il n'a plus rien à dire sur les Hobbits. En revanche, il a des choses à dire sur le monde des Hobbits, justement. Et c'est ce qui va l'intéresser dans Le Seigneur des Anneaux, de laisser sa plume, par moments, lui échapper. Et le texte qui va naître, 1000 pages, on est évidemment aux antipodes d'un récit pour les enfants comme le Hobbit, 1000 pages qui laissent une place très importante à la contemplation du monde, à la découverte du monde, à la nature, les forêts, les fleuves, la mer, les étoiles, les différents peuples. Et c'est très intéressant de voir que l'ouvrage sur Tolkien et les sciences reprend un petit peu l'esprit de l'écrivain qui était à la fois un artiste et un homme, un scientifique au sens où il connaissait les langues en philologue. À Oxford, il enseignait les langues et littérature médiévales, mais il connaissait de très nombreuses langues classiques comme le latin et le grec, des langues disparues comme le gothique, des langues modernes comme le russe, l'espagnol. Et il inventait des langues. On le verra tout à l'heure peut-être avec l'arbre des langues, avec une rigueur scientifique mêlée à une forme de créativité, de goût et de joie artistique qui faisait que par moments, il changeait tout simplement par goût.
Donc maintenant que l'on a passé la porte courbe dans l'univers de Tolkien, alors effectivement là on est dans la pièce des Hobbits. Alors le Hobbit, petit peuple aux gros pieds velus, gens paisibles qui fument l'herbe à pipe, qui jouissent du spectacle de la nature, qui ne visent à rien d'autre qu'à ronronner calmement, lover dans leur petite comté. Donc voilà, le Hobbit est calme, mais l'histoire va amener autre chose. Alors justement, c'est intéressant, dans le numéro fort bien fait de Lire, le hors-série Tolkien, qui a été publié sous la direction de Baptiste Liger, Vincent Ferre, vous donnez un entretien et Baptiste Liger vous pose la question de savoir si c'est un anti-moderne. Effectivement, on peut s'imaginer que cette nostalgie d'une Angleterre pré-industrielle, celle du XVIIIe siècle, d'ailleurs nostalgique partagée, je pense que je me tourne vers Loïc Mangin, Roland Lehoucq, un Lovecraft d'une autre manière, mais c'est la même nostalgie, peut faire effectivement apparenter Tolkien à un anti-moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse la rupture de la modernité technologique et qui n'aime rien tant que déambuler calmement dans un chemin à creux en écoutant chanter les oiseaux, c'est sûrement plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué que ça, et comme souvent, il est difficile de le faire rentrer dans une case. Ce que l'on peut dire, c'est que chez Tolkien, rien n'est univoque et tout est en nuances. Les Hobbits sont effectivement les héros du Seigneur des Anneaux, mais Tolkien a choisi de leur donner cette taille pour représenter leurs défauts. C'est-à-dire que si les Hobbits sont petits, c'est qu'ils sont bas de plafond. Ils sont mesquins. C'est le terme qu'emploie Tolkien. Ils sont mesquins. Ils sont à la fois très attachants parce qu'ils passent leur temps à discuter entre eux et à boire de la bière et à fumer de l'herbe à pipe. Et en même temps, ils se querellent en permanence avec le village d'à côté. Donc Tolkien n'est pas dupe. Ce n'est pas l'éloge d'un âge d'or. C'est effectivement le souvenir d'une Angleterre d'avant la Révolution industrielle, qu'il s'agit de célébrer une sorte de souvenir. Et en même temps, c'est une mise en garde contre les personnes qui pensent pouvoir vivre en vase clos alors qu'elles sont une partie d'un tout qui est le monde. Maintenant, chez Tolkien, il faut bien comprendre que nos repères de lecteurs francophones sont un peu faussés. C'est-à-dire que le traumatisme de la révolution industrielle en Angleterre n'a pas d'équivalent en France sous cette forme. Et Tolkien partage avec une génération d'auteurs cette nostalgie d'une campagne qui a été défigurée.
Il l'a connue dans son enfance, quand même, parce qu'il a aussi connu le Birmingham crasseux et noir des usines, mais il a aussi connu la douce campagne anglaise.
Autour de Birmingham. Et de ce point de vue-là, et l'article qui a été fait par Pierre Serrier dans le catalogue de l'exposition qui porte le même titre, Voyage en terre du milieu, rappelle l'importance pour D.H. Lawrence, pour Thomas Hardy, de cette Angleterre qui a été absolument ravagée, éventrée, au profit des mines de charbon et d'une forme d'industrie qui n'a rien à voir, effectivement, hein, qui est le Birmingham de Peaky Blinders, c'est pas le souvenir qu'on a, nous, de Zola, par exemple, et des descriptions de Germinal. Donc c'est un traumatisme pour le jeune Tolkien. Il célèbre la beauté de la nature, y compris la nature domestiquée par les hobbits.
Oui, effectivement, c'est ce qu'on essaye de montrer un petit peu dans l'ouvrage, c'est que d'un côté scientifique, il avait ce côté naturaliste, nostalgique d'une campagne verdoyante, etc. Et donc, il était très attaché à ce côté-là. Mais par ailleurs, il fuyait tout ce qui était un espèce de rationalisme scientifique qui allait de pair avec le pouvoir, la production, la science qui s'était rangée aux côtés du pouvoir. Finalement, on dirait aujourd'hui entre la science fondamentale et la science appliquée. Tout simplement. Et c'est ce qui ressort de son œuvre, en fait. C'est entre Saruman et ses orques génétiquement modifiés qui représentent vraiment le mauvais côté de la science, et par ailleurs le Hobbit qui est lui plutôt côté positif, côté nostalgique de sa bonne vieille Angleterre verdoyante.
Pour revenir à Saruman, ce qui est frappant...
Alors, c'est le magicien noir, l'homme de l'ingénierie sombre et terrorisant.
Celui qui dévoie le savoir qu'il a acquis petit à petit, et celui qui utilise la nature qui l'entoure comme de simples ressources qu'on peut épuiser, provoquant par là même la colère des hommes-arbres, des Ents, et la destruction de sa puissance par la nature.
Alors avec les hobbits, on était dans une sorte de rondeur un peu chthonienne, enfin un peu placide. Avec les elfes, on est passé maintenant dans le monde des elfes, une magnifique tapisserie d'ailleurs, puisque non seulement il y a de tout ce qui est graphique, mais également tissé, Vincent Ferré, une magnifique tapisserie qui est là. Le monde des elfes, c'est tout à fait différent des hobbits. Là, on est...
Absolument, en fait, le point commun de la salle des elfes avec la tapisserie d'Aubusson, c'est l'arbre. L'arbre, non seulement au mur à travers des illustrations qui représentent la Lorienne ou la demeure d'Elrond, Imladris, Rivendell, mais l'arbre des langues également. Il faut bien savoir que parmi la cinquantaine de langues que Tolkien a inventées, conçues, imaginées, il y en a une douzaine qui sont développées avec une grammaire, un lexique et une évolution historique, les deux plus célèbres étant le Quenya et le Sindarin, deux des langues des elfes. Mais face à moi, au mur, il y a une reproduction en grand format de l'arbre des langues qui montre bien que Tolkien a pensé les langues comme des langues réelles, comme le français moderne dérive via l'ancien français du latin. Il a imaginé toutes ces langues à chacune des étapes de leur évolution.
Alors, il y a un article de Numéro de Lire qui s'appelle « Parlez-vous l'elfique ?» Je sais que le Klingon se parle, mais est-ce que les langues tolkieniennes se parlent ou est-ce qu'elles sont purement graphiques ?
Non, les langues de Tolkien s'étudient. On peut les admirer, on peut les apprendre, apprendre les déclinaisons et le fonctionnement, mais on ne peut pas les parler. Chez lui, il n'y avait pas la volonté d'inventer une langue alternative aux langues réelles, mais simplement de se faire plaisir en inventant des systèmes graphiques, des systèmes de transcription, des alphabets, une grammaire et un vocabulaire qui, en fait, par les sonorités et par la construction des mots, lui plaisait d'un point de vue esthétique. Il a à un moment donné rapproché l'invention des langues à laquelle il se livrait de la composition de la musique par certains compositeurs, en disant certains sont musiciens, d'autres sont compositeurs. Lui est un compositeur de langues, si on veut.
Maintenant devant des œuvres pré-raphaéliques, parce que cette exposition effectivement connecte l'univers de Tolkien à la fois intellectuel et matériel, ses manuscrits, ses travaux d'aquarelliste, de dessinateur, avec d'autres œuvres. Alors il y a le fameux arc tartare dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a également des œuvres de Burne-Jones, de Beardsley. On sent que Tolkien est connecté avec tous les grands illustrateurs fin de siècle, Edmond Dulac, Rackham, qui montrent bien que Tolkien, là aussi, il y a toute une espèce de terreau, de source contemporaine.
C'est ça. Donc Tolkien est à la fois le représentant le plus célèbre de la fantasy moderne. C'est le grand-père de Harry Potter et de Game of Thrones, si on veut. Mais il ne sort pas de nulle part. Il marche dans les pas de William Morris, qui est quelqu'un qu'on ne connaît pas assez en France, qui est un compagnon de route des Préraphaélites, un théoricien du socialisme, un imprimeur, un designer et un romancier. Les éditions aux Forges de Vulcain ont entrepris la traduction de tous les romances de Morris, qui, à la fin des années 1890, donne naissance à une forme de fantasy dérivée de la littérature médiévale, de la littérature merveilleuse, qui va beaucoup influencer Tolkien. Ne serait-ce que parce que Tolkien baigne dans cet univers en étant étudiant à Oxford à partir de 1911. Il est étudiant à Exeter College, là où est passé William Morris deux générations plus tôt. Donc, si vous voulez, ce sont les références picturales, intellectuelles, naturelles pour Tolkien. Et il était primordial de montrer aux visiteurs certains des codes graphiques ou des représentations que Tolkien avait de manière très naturelle à l'esprit quand il écrivait ou quand il peignait.
Nouvel univers, nouvelle pièce de cette exposition Tolkien à la BNF. Alors là, c'est le monde des nains. Tolkien, là, réfère à une tradition millénaire qui est d'associer tout ce qui est métallique, tout ce qui est métallurgie, caïnique, à quelque chose, je dirais pas de néfaste et de mauvais, mais en tout cas de menaçant et de dangereux. Et là, c'est le monde des nains. Alors là, on réfère là plutôt à Wagner, là, un autre anneau célèbre, le deuxième anneau le plus célèbre, c'est celui de Wagner. Là aussi, le monde des nains, monde souterrain, monde octonien, des hommes petits, mais plus grands que les hobbits, et qui sont des forgeurs et surtout un monde fermé, parce que le nain ne veut entendre parler que de lui-même, en tout cas que de ses propres problèmes et de son propre peuple. Comme le Hobbit aussi, d'ailleurs.
Le rapprochement avec Wagner est important parce qu'il faut bien savoir que Wagner s'inspire d'une tradition allemande, d'une version allemande de tradition nordique. Tandis que Tolkien lui va directement puiser aux sources. Il lisait les sagas nordiques directement en vieil islandais. Il a entrepris d'ailleurs de traduire en anglais moderne certaines traditions. Donc la rencontre avec Wagner, c'est la rencontre autour d'une source commune, mais que Tolkien connaît directement. Dans le cas des nains, l'accent qui a été mis porte sur les langues et les documents historiques, j'ai envie de dire. On a décidé de reproduire en grand format la porte de la Moria, celle que les héros rencontrent. Au royaume souterrain. Et c'est une sorte d'énigme à déchiffrer pour les visiteurs, comme elle l'est pour les héros qui ont entrepris le voyage vers le Mordor. Donc sur cette porte, on voit très bien des langues à décoder. À droite et à gauche, on a représenté des Tengwar et des Kirt avec Langertas. Une translittération en alphabet latin à gauche et une traduction pour les flemmards en français. Mais ce qui est moins spectaculaire, mais qui est un véritable trésor, c'est qu'on a réussi, grâce au travail mené en collaboration entre la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque Bodleian d'Oxford et l'Université Marquette aux États-Unis, on a réussi à rassembler des documents qui ne sont absolument jamais rassemblés, qui ne sortent jamais pour des expositions de cet ordre, des versions successives de ce qu'on appelle le livre de Mazarbul. Donc, qu'est-ce que c'est que le livre de Mazarbul ? Ce sont des archives naines que les héros découvrent dans la Moria. Des pages qui sont tachées de sang, déchirées, brûlées, et que Gandalf déchiffre. Tolkien avait envie de donner une impression d'authenticité, d'historicité, de véracité, en demandant à son imprimeur, à son éditeur, d'inclure dans Le Seigneur des Anneaux les trois pages qu'il avait préparées. C'est comme une sorte de facsimilé. Et là, au mur, on a les versions successives du travail, et on voit comment Tolkien a pensé le lien entre le facsimilé, avec l'alphabet nain, et ce que le lecteur découvre par la voix de Gandalf, qui lit à haute voix et traduit ce qui est présent.
Vincent Furet, ce qui est fascinant, c'est que là, on a un vrai faux document archéologique. Exactement. C'est-à-dire que non seulement il invente, une pièce manuscrite pour le besoin de son récit, mais il va jusqu'à la confectionner, la fabriquer, à faire une sorte de vrai faux. C'est exactement ça. C'est extrêmement impressionnant, ce qui veut dire qu'il y a le professeur Oxford qui passe son temps à étudier, les racines littéraires de la littérature anglaise, la philologie, les langues très anciennes. Et puis, il y a aussi une sorte de professeur qui fonde sa propre science. Il est à la fois le professeur et l'élève et qui invente une sorte de science d'un univers imaginaire.
Ouais, c'est ça, c'est une sorte de philologie fictionnelle, de mélange entre un savoir érudit d'une érudition extrême et la fiction. En fait, Tolkien est fidèle à des traditions médiévales. Vous le savez bien, le premier récit de Chrétien de Troyes s'ouvre sur une référence à un conte breton. Toute la littérature médiévale se réfère à des textes antérieurs ou des traditions antérieures. Qu'est-ce qu'on trouve dans Le Seigneur des Anneaux, dans les premières pages, dans ce fameux prologue un peu étonnant? On apprend que l'histoire du Seigneur des Anneaux et celle du Hobbit sont tirées d'un fameux livre rouge. Et donc Tolkien a décidé, à travers des cartes, à travers tous les appendices du Seigneur des Anneaux, les arbres généalogiques des Hobbits, mais aussi donc ce livre de Mazarbul, de créer un effet de réel pour le lecteur. Et c'est très important, ça n'est pas excentrique du tout. Son idée est que le lecteur doit suspendre son incrédulité. Il doit entrer dans la fiction comme s'il lisait un vrai récit historique sur un monde qui a réellement existé, puisque la Terre du Milieu, le monde du Seigneur des Anneaux, est notre Europe il y a des milliers d'années. Donc Tolkien décide, à travers ce genre de dispositif, de pousser assez loin le procédé. Un peu trop loin au goût de son éditeur, qui 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, considère que les frais de production de cet artefact vont être beaucoup trop élevés. C'est pour ça, c'est de là que vient l'entendu autour du Seigneur des Anneaux. Vous savez, ça n'est pas une trilogie, mais le volume de 1000 pages a été coupé en 3 tomes parce que le produire d'un seul tenant aurait été beaucoup trop onéreux. Pour la même raison, Tolkien doit renoncer au livre de Mazarbul pour son plus grand désespoir.
Roland Le Houx, là, avec les nains et la malédiction sur la métallurgie, on est au cœur du débat sur la science.
Oui,
c'est-à-dire, quelle est la vision tolkienienne de la science ?
Oui, absolument. Alors, il y a 2 aspects. D'abord, il y a l'aspect les nains comme producteurs de métaux, extracteurs de métaux. C'est vraiment un peuple extractiviste et puis très avide. Hein. Ils ont des problèmes avec le Balrog parce qu'ils vont chercher un peu trop loin les minerais dont ils ont besoin. Mais il y a donc d'une part l'analyse des métaux, notamment le mithril, le fameux mithril qu'ils produisent. Et puis, il y a bien sûr aussi au cœur de la problématique l'idée que dans les entrailles de la Terre, par des machines, par des outils, par des forges, par le feu, par la flamme, par la chaleur et par le métal, eh bien, on va transformer le monde et puis pas toujours pour son plus grand bien. Alors si on revient sur le mithril, ce qui est intéressant, moi je trouve, dans cette exposition, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on voit des objets qui ne sont pas que du papier, si je veux dire, pas que des dessins. Il y a aussi des armes anciennes, il y a des cottes de mailles, et il y a tout un tas d'objets qui évoquent finalement le travail de la métallurgie, le travail des nains. Alors si on s'intéresse plus particulièrement au mithril, on peut dire mais qu'est-ce que c'est que ce métal spécial finalement qui a des propriétés incroyables, il est ductile comme le cuivre, il a une très bonne conductivité thermique comme l'argent, il est beau comme le platine, il est résistant comme l'acier, enfin il a toutes les qualités. Et donc ce mithril, il a des propriétés extraordinaires, mais il faut savoir aussi que justement en l'honneur de ce mithril, l'American Chemical Society a nommé mithril un alliage d'yttrium et d'argent. Parce que voilà, c'était bien de l'appeler mithril. Il fallait bien lui donner. Il fallait bien
baptiser les innovations technologiques.
Comme souvent,
il en aurait été ravi.
C'est un forgeur de noms, en plus d'un forgeur de métaux, c'est un forgeur de noms. Et donc ces noms extraordinaires qui parlent à tous et qui sont si forts d'images et de contenu, eh bien, sont réutilisés ensuite dans les sciences réelles.
Oui, bonjour.
Juste pour rebondir sur la récupération entre guillemets de l'univers de Tolkien par les sciences actuelles. Enfin, son univers a été l'inspiration de nombreuses dénominations, que ce soit des formations géologique sous-marine au large de l'Irlande, que ce soit des espèces animales, végétales, enfin c'est vraiment une source d'inspiration essentielle.
Alors là, Vincent Ferré, on est devant une vitrine qui incarne au mieux ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que évidemment c'est Tolkien, rien que Tolkien, mais il y a également l'intégration d'éléments exotiques, on pourrait le dire, notamment une cotte de maille. On parlait des nains forgeurs de métal et des métaux inouïs. Là, il y a une cotte de maille, et puis il y a également des fers de hache fort anciens. Donc là, on est chez Tolkien, mais par rebond.
Là, on est face aux pièces de contextualisation qui représentent à peu près 110 pièces sur les 400 au total. L'équipe de la BNF, donc Louise Faudehet, puis Émilie Fissier, Frédéric Manfrin, Élodie Bertrand, a procédé à une sélection parmi les très riches collections de la BNF et à une discussion avec des musées et des institutions partenaires. Donc ces objets viennent du musée de l'armée avec lequel on organise un colloque sur Tolkien et la guerre fin janvier. L'idée est d'aider les visiteurs à visualiser le Moyen-Âge de Tolkien. Lorsqu'il y a eu cette très belle exposition sur les épées au musée de Cluny, un collègue médiéviste s'est aperçu que beaucoup de visiteurs prenaient en main une épée qui était placée là pour la prendre en main. C'est-à-dire que le Moyen-Âge, c'est quelque chose qu'on peut imaginer à partir d'objets concrets. Les créneaux d'un château fort, de la musique, des épées, une ruine. Et donc il fallait un support à l'imaginaire pour bien montrer que Tolkien travaille à l'élaboration d'un monde littéraire, mais à partir d'une connaissance très fine de ce qu'était le Moyen-Âge dans tous ses détails.
Continuons notre pérégrination et entrons dans la forêt. Alors là, c'est vrai que la forêt... Mais là, la forêt, chez Tolkien, Vincent Ferré, est-ce qu'elle est procuratrice, comment dire, de bienfaits, de méfaits? Est-ce que c'est un lieu positif, négatif?
Eh bien, les visiteurs vont découvrir qu'à l'origine, Lent Barbebois, Sylve Barbe, était un être mauvais au service du Seigneur des Anneaux. La forêt chez Tolkien, c'est vraiment un mélange entre un hommage à la forêt réelle et un souvenir de la forêt médiévale dans son aspect fascinant, menaçant. C'est le lieu des aventures, c'est l'endroit où on risque d'être mangé par les trolls quand on est un petit hobbit.
Justement, voilà. Être mangé par la forêt, il y a la reproduction géante d'une aquarelle magnifique de Tolkien d'ailleurs. Alors on voit les arbres qui se dressent comme des colonnes, des fûts absolument majestueux, écrasants par leur taille et leur densité. Et puis là en bas, il y a des petits personnages qui peinent à enjamber une petite racine même. Il y a des champignons, il y en a même un autre personnage qui fait la sieste visiblement avec son bonnet et sa lanterne à l'ombre de l'arbre. Donc là, on a un peu comme chez Bruegel d'ailleurs, où il y a des tout petits personnages perdus dans une scène qui les dépasse. Là, c'est un peu le cas chez Tolkien, Vincent Ferré.
Si on veut, moi j'y vois ici une illustration du fait que les humains ne sont que de passage dans ce monde. Et que, avant nous, après nous, restera ce milieu naturel qui nous dépasse complètement, même symboliquement. On sait la fascination que Tolkien avait pour les arbres. Dans un des extraits de l'interview à la BBC de 68, on le voit aller rendre visite à son arbre. Et Adam Tolkien a décidé d'ouvrir le cycle des conférences organisées à la BNF le 14 novembre par un focus sur l'importance de la nature dans l'œuvre de son grand-père. Et il disait, voilà, cet arbre-là dans le jardin botanique d'Oxford, il allait le voir comme on va voir un ami. Et c'est vrai que la forêt, l'imaginaire de l'arbre, je parlais tout à l'heure de l'arbre des langues, de l'importance de l'arbre comme élément de décor, mais l'arbre, c'est aussi l'arbre des contes. Ses racines, ses branches multiples.
C'est à la fois une réalité biologique et une métaphore, l'arbre.
Une métaphore, mais de toute la création de Tolkien.
Loïc Mangin.
Oui, je reviens sur l'importance de l'arbre pour Tolkien. En fait, ça fait écho complètement à ce courant actuel de sylvothérapie, de bains de forêt, une tradition venue du Japon et qui est très en vogue en ce moment en France. Et pour revenir sur le personnage principal, mi-arbre, en fait, mi-animal, Lent, il est l'occasion dans notre livre de discuter de finalement cette frontière entre animal et végétal qui semble très nette pour tout le monde et qui en fait ne l'est absolument pas. Qu'est-ce qui est végétal, qu'est-ce qui est animal? On pourrait en parler longuement, mais finalement, c'est prenez une anémone de mer, c'est une sorte d'animal qui est en train de se végétaliser. Prenez un phasme, c'est un animal qui ressemble à une brindille. Où se situe Lent à ce niveau-là? On est peut-être plus du côté du phasme puisque Lent a quand même une bouche, il parle, il semble avoir des mains, enfin il est quand même un tantinet humanoïde, et donc il serait plus un animal qui serait en train de se végétaliser plutôt qu'un végétal en train de s'humaniser.
Alors c'est très beau tout cela, les nains, les hobbits, les ents, les elfes et les hommes dans tout ça, comme la question Vincent Ferré. Nous y voilà avec le Rohan, les seigneurs des chevaux, apparition de l'humanité. Alors, de manière générale, quel statut a l'humanité dans l'univers de Tolkien? Puisque effectivement, je renvoie toujours au numéro de Lire hors série qui présente en synthèse la totalité de son univers. Ce que l'on connaît, c'est essentiellement les plus célèbres aventures relèvent du troisième âge, mais il y a une gigantesque constellation narrative et axe chronologique qui enjambe trois âges énormes. À l'intérieur de tout cela, quelle est leur fonction, peut-on dire, Vincent Ferré, dans cet univers de Tolkien?
Effectivement, il faut rappeler qu'entre la création du monde par des sortes d'anges assistant à Dieu unique, Eru, qui n'est jamais mentionné dans Le Seigneur des Anneaux, et l'histoire du Seigneur des Anneaux s'écoule 12 000 ans. Le Seigneur des Anneaux se déroule principalement en 3018-3019 du Troisième Âge, le moment où les humains et humanoïdes, dont les hobbits, se mettent à assumer les premiers rôles parce que les elfes sont dans une sorte de passéisme, de souvenir du passé. Là, pour le coup, ils sont vraiment réactionnaires et antimodernes, ceux-là. Et Tolkien les critique comme tels dans sa correspondance en disant que ce sont des embaumeurs, des gens qui vivent dans le souvenir du passé. C'est aux hommes, hobbits, etc., nains, hommes, d'assumer le premier rôle avec leurs défauts, leurs limitations, leurs faiblesses, leur facilité à succomber à la séduction du pouvoir et à toutes les tentations. Donc, la figure de Gandalf est intéressante à cet égard, puisque c'est une figure de mage qui va guider, conseiller, mais qui n'intervient jamais directement, qui ne veut pas agir à la place des autres. Il préfère conseiller le prince en exil qui va réclamer son royaume à un moment donné. Il préfère guérir le seigneur des hommes du Rohan pour lui permettre de nouveau d'assumer le rôle qui est le sien. Donc, les hommes jouent un rôle relativement tardif, mais j'ai envie de dire les hommes et les femmes. C'est la raison pour laquelle le panneau de salle pourrait s'appeler « Où sont les femmes ?» chez
Alors,
Tolkien.
Il y a une question qui est posée sur ce panneau. Une histoire sans femmes, point d'interrogation.
Est-ce que c'est une des questions tarte à la crème qui se pose lorsqu'on évoque Tolkien et qu'on a en référence simplement les adaptations cinématographiques. Bon. Tolkien, comme auteur de fantasy...
Il ne faut pourtant pas, je dirais, privé de femmes. Peter Jackson fait une grande place quand même aux figures féminines.
Bon, on reparlera des figures féminines chez Peter Jackson une autre fois, si vous voulez. Ce que je peux dire, c'est que Tolkien, comme héritier de la littérature médiévale, effectivement, n'invente pas de personnages féminins qui viendraient rompre les codes de cette tradition. Pour autant... Si on prend en compte l'ensemble de ces récits, on sait que le héros le plus important de toute l'histoire inventée par Tolkien, c'est une femme, c'est Lúthien, qui accomplit un exploit, reprendre un joyau, le Silmaril, au dieu mauvais Morgoth, qu'aucun homme ou aucun homme elfe n'est capable d'accomplir. Donc on a voulu directement poser cette question pour ne pas réduire Tolkien encore à un des clichés auxquels malheureusement son œuvre est parfois réduite, comme tous les grands écrivains dont la création dépasse absolument l'entendement et qu'on a tendance un petit peu à simplifier.
Approchons-nous là de la carte du Rohan, Vincent Ferret. Vous dites dans le catalogue de l'exposition, enfin, il figure une citation de Tolkien, pour être exact, qu'il c'est l'histoire est soumise à la carte. C'est la carte qui décide de l'histoire. C'est quand même assez inouï. Alors quand on voit effectivement la carte qui est là, qui est d'une minutie quasiment, c'est une carte d'état-major, mais c'est pour une guerre imaginaire.
Oui. Enfin, on va rappeler que Tolkien a été officier pendant la bataille de la Somme, pendant la Première Guerre mondiale, qu'il était spécialisé dans les transmissions et les codes, et qu'il parler de carte d'état-major est une bonne idée. En fait, se lançant dans la rédaction du Seigneur des Anneaux en 37, juste après le succès du Hobbit, il a décidé de commencer à dessiner une carte du comté, une carte de la Terre du Milieu, quitte à les remanier en permanence. C'est pour ça que, un petit peu comme chez Proust, on a des paperolles mises bout à bout. Ici, on a des petits bouts de papier journal collés au centre d'une carte parce qu'il a fait beaucoup. Il y a un repentir, il a fait beaucoup de retouches. En fait, il voulait que les déplacements de ces personnages soient absolument crédibles en termes de distance, puisque le groupe est éclaté. Il fallait que lorsque tel personnage situé à tel endroit regarde la lune, ça corresponde chronologiquement au moment où tel autre personnage regarde la lune, mais à tel autre endroit. Et on voit par exemple dans la carte que vous évoquez, la carte du Rohan, du Gondor et du Mordor, que Tolkien a fait représenter les déplacements de Sam et Frodo en Mordor, et qu'il a à plusieurs reprises barré certaines trajectoires, déplacé Barad-dûr pour que ça soit crédible et que ça colle. Et ailleurs dans l'expo, on a des petites cartes qui servent de mémo à Tolkien pour se rappeler quelle distance de parcours à pied
c'est
à un vite.
C'est fascinant à la fois cet imaginaire effréné. On invente absolument tout, il n'y a absolument rien qui ne reste, je dirais, du concret le plus contemporain, et par contre d'un réalisme absolu. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a dans le catalogue, vous-même, une pièce qui est présentée, il y a une transcription de la taille entre les mesures anglaises et puis la taille des personnages et les mesures du Seigneur des Anneaux.
C'est juste de parler de réalisme, c'est-à-dire que son idée qu'un récit merveilleux doit être crédible parce qu'il nous parle de notre monde sous le dehors de la fiction. Par une sorte de filtre. Le merveilleux chez lui n'est pas une facilité, c'est une sorte de coloration du monde pour nous surprendre et pour que le lecteur, lorsqu'il regarde le monde une fois qu'il a refermé le livre, voit les arbres, voit les montagnes, voit les forêts, voit les autres êtres humains différemment.
Luc Mongin.
Oui, en fait, ça rejoint effectivement ce qu'on dit dans le livre, c'est que pour que le lecteur soit séduit, s'immerge dans le monde, il faut qu'il soit cohérent d'un début jusqu'à la fin. Et ça implique que même scientifiquement, il soit cohérent. Donc c'est pour ça que ça fonctionne bien. Et pour revenir sur le roman, il a vraiment, cette zone-là, cette région-là, vraiment un statut assez particulier. En fait, la Terre du Milieu a fait l'objet de plusieurs tentatives de reconstitution géologique et tectonique. Et donc, plusieurs géologues se sont intéressés à l'histoire géologique de cette Terre du Milieu. Et à chaque fois, j'étais pas d'accord sur le nombre de failles, le nombre de plaques, etc. Malgré tout, à chaque fois, le Rohan a un statut particulier, à savoir que c'est un craton. C'est-à-dire, c'est une zone.
Un craton.
C'est-à-dire que c'est une zone qui n'a pas été modifiée, qui est restée très longtemps à l'écart de tous ces mouvements tectoniques et de cette reconfiguration.
Prochaine étape, Vincent Ferré, là où sommes-nous ?
Nous sommes en Gondor, c'est-à-dire que c'est le royaume des hommes qui est le plus marqué par le passé de la Terre du Milieu. Pourquoi ? Et là, on voit au mur une carte de Numénor qui est l'Atlantide de Tolkien. Il faut savoir que Tolkien a essayé d'unifier différents récits qu'il avait inventés de manière indépendante à l'origine en essayant de les relier. Numénor, c'est sa version de l'Atlantide, et il a consacré un récit très beau dans lequel les hommes sont trompés par Sauron, le seigneur des anneaux, et se révoltent contre les dieux et essaient de prendre la place des dieux. La réponse du dieu unique est la destruction de l'île. Un petit groupe d'hommes s'échappe de l'île et vient fonder en Terre du Milieu le Gondor. Autrement dit, le Gondor vit dans le souvenir d'une splendeur passée, et on y trouve des traces, par exemple, de religions et de cultes religieux qui sont assez incompréhensible pour les hobbits, mais que le lecteur peut interpréter comme un clin d'œil aussi à l'arrière-plan du Seigneur des Anneaux, qu'est le Silmarillion, le grand œuvre que Tolkien ne va jamais achever, qui va connaître de très nombreuses transformations des premières versions en 1916-1917, les Contes perdus, jusqu'à sa mort en 1973. Il ne cessera de rêver à l'achèvement du Silmarillion et il demandera à son fils Christopher Tolkien, qui a publié une vingtaine de textes à partir des manuscrits de son père, il lui demandera de trouver une forme publiable pour ce texte-là. Le Gondor fait le lien, si l'on veut, entre le Silmarillion et le Seigneur des Anneaux.
C'est vrai que tout est structuré, architecturé chez Tolkien et que rien n'est laissé au hasard. Tout a sa cohérence et s'intègre. Alors là, on passe devant un pan calligraphique. De quoi s'agit-il, Vincent
Ferré ? C'est la lettre du roi, une lettre que Tolkien avait pensé placer à la fin du récit, un moment où le roi Elessar, donc je vais utiliser son nom de roi pour ne pas divulgâcher la fin du Seigneur des Anneaux pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu, qui lu le texte, mais cette lettre-là, qui n'a jamais été intégrée au Seigneur des Anneaux telle que publiée par Tolkien en 54, annonce la venue du roi en comté pour voir ses amis les hobbits.
Pendant qu'à notre droite, il y a une vitrine où il y a le corps de Roland, et puis à côté, une armure et une épée. Là aussi, on résonne en permanence avec l'histoire authentique, je dirais, de la vieille Europe. Nous, alors là, on va renouer avec les forces obscures.
Puisqu'avant, avant le Mordor, l'une des étapes, c'est Isengard. On parlait de Saruman, c'est la forteresse de Saruman. Et une salle est consacrée à cet affrontement entre deux figures de sages et de savants, que sont Saruman, celui qui pille la nature, et Gandalf, celui qui met son savoir au service de la communauté.
Deux conceptions de la magie et
diamétralement opposées.
Deux visions du pouvoir. Pour l'un, le pouvoir est écrasement, pour l'autre, il est partage.
Il est partage et le savoir doit être utilisé à des fins positives. C'est tout l'enjeu où il y a une des lectures possibles du Seigneur des Anneaux. On sait que l'anneau dans le Seigneur des Anneaux a plusieurs interprétations possibles, plusieurs significations. L'une que donne Tolkien dans sa correspondance est que l'anneau est magique au sens où il permet d'obtenir instantanément ce que l'on veut obtenir. Donc Sam, quand il le porte, voit un monde verdoyant et un endroit où il pourrait faire pousser toutes sortes de plantes. Gollum, quand il rêve de le récupérer, imagine qu'il pourra manger du poisson tous les jours. Galadriel rejette l'idée qu'on lui donne l'anneau parce qu'elle a peur de l'utiliser de manière négative en ayant de bonnes intentions. Gandalf est sur cette ligne également. Il refuse de prendre l'anneau quand on le lui propose, parce qu'il sait que même lui peut être soumis à la tentation de l'utiliser. Il y a un adage anglais qui dit le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Saruman est l'incarnation du savant qui trahit, qui faute, qui est défaillant, et que le texte condamne. Le texte lui permet une fois de se racheter. Saruman persiste et on sait ce qui lui arrive à la fin.
Over our head, repeater, deceiver, over our head, death receives it. By nation, by parliament, by ritual of wealth, you hold death over our head, you hold life over our head. I hope you get what you've been giving out. I hope you choke on all the memories. Along to no life, just insecurities, false hope, and sanity.
Saruman, le nom a quel sens? Puisque chez, y a rien n'est laissé au hasard chez Tolkien. Donc Sauron et Saruman.
Saruman. En fait, ça renvoie à l'homme rusé. Mais dans un sens négatif, pas simplement sage, mais celui qui cache ses intentions.
Mais dites-moi, Vincent Ferré, vous qui connaissez millimètre par millimètre l'univers de Tolkien, vous êtes devenu un personnage de Tolkien? Parce qu'à force d'avoir une familiarité et une sorte de plain-pied avec non seulement les personnages, leur nom, leur histoire, leur personnalité, vous vivez dans cette humanité-là?
Non, pas du tout. Moi, je suis enseignant en littérature comparée à l'université Paris-Est Créteil. Je travaille beaucoup sur Proust, sur les liens entre littérature et philosophie, puisque je dirige un laboratoire de recherche de littérature et philosophie. Et j'enseigne, je vous rassure, Cervantes, Shakespeare aux étudiants, Proust parfois, mais un petit peu Tolkien, suivant les années. Mais je ne suis pas passé de l'autre côté du miroir.
Mais continuons-nous à progresser le long du miroir. Alors là aussi, on est au cœur de la question centrale, Vincent Ferré, de Tolkien, cette espèce de vision d'affrontement, de gigantomachie entre les forces du bien et les forces du mal. Est-ce qu'on a affaire avec le catholique Tolkien, puisque sa mère s'était convertie au catholicisme et que lui n'est pas revenu sur cette conversion? Est-ce qu'on a affaire à une sorte de néo-manichéen, un gnostique? Est-ce qu'on a affaire au contraire à quelqu'un qui est un catholique à l'ancienne, qui croit à l'effectivité et à l'action patente des forces du mal? Quelle est un peu la métaphysique ou la théologie de l'histoire de Tolkien, Vincent Ferré?
Donc là, vous posez une question de fond, puisque ça n'est pas, au moment où résonnent les paroles du poème de l'anneau prononcé par Tolkien, je vais essayer de répondre, Tolkien n'est pas explicite dans Le Seigneur des Anneaux. Il a vraiment laissé volontairement de côté toute dimension religieuse explicite, parce que le récit est censé se passer des milliers d'années avant notre ère. Pour autant, les réflexions sur le bien et le mal, évidemment, sont très marquées par son catholicisme. Le bien et le mal sont des points de repère qui permettent aux personnages de situer leur action. Mais aucun personnage n'est mauvais à l'origine, même Sauron ne l'était pas.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est une série d'actions répétées. Et tout personnage a la possibilité de se sauver au cours de l'histoire.
Il y a quand même une déchéance. Alors là, on est dans une perspective biblique et chrétienne. Est-ce qu'il y a au départ, dans la mutation catastrophique des personnages, l'idée d'une chute?
Le monde est marqué par la chute. Et il est évident que Tolkien, écrivain, a cette problématique en tête. Mais j'ai envie de dire, la question se pose plutôt individuellement. Un personnage comme Boromir, qui est un personnage qui incarne un certain nombre de valeurs chevaleresques, faute si on veut, et chute parce qu'il est absolument désireux d'utiliser l'anneau pour sauver son peuple. Le personnage de Gollum est sauvé par Bilbo puis par Frodo, qui décide de l'épargner et qui applique une forme de miséricorde qui est tout à fait en conformité avec certaines des valeurs que partageait Tolkien, des valeurs chrétiennes que partageait Tolkien. Pour autant, il a décidé de s'éloigner à la fois des récits arthuriens très marqués par le christianisme au XIIIe siècle et des choix esthétiques de son ami C.S. Lewis, l'inventeur entre autres de Narnia, mais qui est très connu en Angleterre pour avoir été
catholique.
Alors, il était protestant, mais il était défenseur du christianisme dans des textes d'apologie que Tolkien trouvait excessifs dans leur caractère explicite. Donc il a décidé d'être un peu plus subtil dans la fiction, de ne rien imposer au lecteur, en étant de ce point de vue-là absolument fidèle à son programme explicité dans l'avant-propos du Seigneur des Anneaux. Pas d'allégorie dans le Seigneur des Anneaux, mais une plasticité dans l'interprétation.
Qu'entend-on là, Vincent Ferré? Est-ce que c'est Tolkien qui lit ses textes?
Alors, en boucle, on entend le poème de l'anneau en français, qui explique que l'anneau est là pour lier les esprits. Et effectivement, Tolkien prononce aussi ce poème en anglais. Ici, on entend le noir parler, c'est-à-dire celui qui est inscrit sur l'anneau et qui est une parole de pouvoir, pratiquement, qui crée, dans une sorte de sortilège, cet asservissement des âmes qui était ce qui inquiétait le plus Tolkien.
Alors, nous sommes dans une pièce tout en noir, entourée par la nuit, une espèce d'anthracite profond. Levons les yeux, Roland Lehoucq, levez les yeux, que voyons-nous?
Eh bien, on voit l'œil de Sauron, évidemment. Et si vous voyez l'œil de Sauron, c'est que, évidemment, vous êtes aussi invisible. C'est ça qui est intéressant dans le pouvoir de l'anneau, de rendre invisible, c'est de réaliser que si vous êtes invisible, alors on ne peut pas vous voir, par définition, mais vous ne pouvez pas voir non plus, car en physique, il y a un principe qui s'appelle le principe du retour inverse de la lumière. Si la lumière peut aller d'un point A à un point B, elle peut aussi aller du point B au point A. Si vous ne vous voyez pas, vous ne pouvez pas être vu, mais si vous voyez, vous pouvez être vu. Et donc, ce qui est intéressant dans l'anneau, c'est quand vous mettez l'anneau, vous êtes invisible au monde, mais Sauron vous voit, et vous voyez Sauron. Et donc, ça applique directement dans le monde parallèle, finalement, qui vous masque aux yeux des autres, et qui est dû à le fait que vous enfilez l'anneau, vous appliquez exactement ce principe du retour inverse de la lumière. Vous voyez, Sauron, c'est de la physique.
Sauron, c'est de la physique, Vincent Ferré.
Oui, alors Sauron, on a souvent tendance, à cause des films, à se le représenter d'une manière erronée. Tolkien a choisi un tour de force qui est de ne jamais faire venir sur scène celui qui donne son nom à l'histoire. Donc le Seigneur des Anneaux, c'est Sauron. C'est celui qui a créé les anneaux, et en particulier le premier des anneaux. Et c'est celui qu'on ne voit jamais dans l'histoire. Alors qu'on le voit dans le Silmarillion, par exemple. Il est incarné, il joue un rôle, il combat des elfes. Donc c'est une manière de suggérer que le mal ne se limite pas aux personnages mauvais, contrairement à Star Wars, par exemple, où on a l'empereur Dark Vador. Le mal, il est incarné en chacun des personnages. C'est une potentialité de chacun des personnages. Tout le monde, de Frodo à Bilbo, connaît un épisode plus ou moins de défaillance, d'échec, à tel point qu'après la guerre, lorsque Le Seigneur des Anneaux a été publié, donc en 54-55, certains lecteurs de Tolkien lui ont écrit pour lui dire qu'il fallait fusiller tel ou tel personnage qui n'était qu'un traître, alors que Tolkien montrait la complexité, l'humanité de certains des personnages.
Luc Mangin. En fait, Gollum est vraiment un exemple de ça, puisqu'il a commencé Hobbit, ensuite il a eu l'anneau, et donc il a même dégénéré d'un point de vue purement biologique. On peut s'interroger sur sa transformation qui l'a transformé en être cavernicole avec des yeux globuleux pour voir dans un environnement peu lumineux. Il est devenu tout blanc si on se base un petit peu sur les films. Gollum est vraiment aussi un exemple de ce côté Janus qui sommeille en chacun de nous.
After the Maker in Rohan said in his song of the mounds of Munbur, we heard the horns in the hills ringing, the sword shining in the South Kingdom. Steeds went striding to the stoning land as wind in the morning, war was kindled. There Theoden fell, Fengling mighty, to his golden halls and green pastures in the northern fields, never returning. High Lord of the Host. Harding and Guzlar, Dúnir and Darwin, a doughty Grimbold, Herifaron, Herubrand, Horn and Fastred fought and fell there in a far country.
Notre visite touche quasiment à sa fin, Vincent Ferré, avec l'Éden perdu du Valinor. Alors là aussi, si on parlait de chute, on parlait de certaines façons de péché, pas de péché originel, quoique, avec le Valinor, on y est presque.
Alors, la première grande salle s'arrête effectivement avec un voyage maritime par la voie droite pour retourner vers Oxford et donc découvrir l'envers du décor et découvrir le personnage dans son milieu de travail à la bibliothèque Bodleian avec son bureau. Et on a décidé de faire une transition en passant par l'ailleurs. Quand on lit Le Seigneur des Anneaux, on sait qu'il y a un ouest véritable, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il faut se replacer dans la position des lecteurs du Seigneur des Anneaux en 54-55 qui ont dû attendre une vingtaine d'années avant de découvrir l'origine des elfes, l'endroit d'où ils viennent, leur relation avec les dieux, et c'est le chemin qu'on va pouvoir emprunter maintenant.
Allons-y, messieurs. Alors là aussi, encore à notre gauche, une gigantesque reproduction d'une aquarelle de Tolkien. Et là, on renoue avec la dimension biographique, Vincent Ferret, puisqu'on retrouve, d'une certaine manière, retour à Oxford. Tel est le titre de la dernière partie de l'exposition, qui nous permet d'apprécier ce qu'a été le cadre, alors là, du coup, historique, biographique, sociologique, et so, de la vie de Tolkien, qui fut quand même un fonctionnaire exemplaire du ministère de l'Éducation nationale de sa très gracieuse majesté.
Oui, Tolkien, sa vie se confond avec l'université d'une certaine manière, sa vie officielle. Il a été professeur de 1924 à...
Pendant que vous parlez, une archive fait défiler d'ailleurs de très dignes professeurs en tenue de parade. C'est très impressionnant. Oui.
Donc d'abord à Leeds en 1920-24 et puis à Oxford à partir de 25 jusqu'en 59. Il a profondément influencé l'enseignement des langues et littératures à Oxford. Il a publié des éditions de textes médiévaux qui servent encore de base pour les études du Moyen-Âge dans le cursus de lettres anglaises. Et parallèlement, il a écrit jour et nuit, d'ailleurs plutôt nuit que jour, des textes qui, pour la plupart, la petite frise chronologique le rappelle, ont été édités après sa mort par Christopher Tolkien, qui a entrepris de publier aussi bien le Silmarillion que des textes de conférences sur la littérature médiévale, sur Beowulf, sur le merveilleux, sur les contes de fées, des récits pour les enfants, comme Mr. Bliss et Rover Random, et puis plus tardivement, plus près de nous, des éditions de textes dont on connaissait l'existence mais qu'on n'avait jamais eu le plaisir de lire, comme La légende de Sigurd et Gudrun, la réécriture dont je parlais, de récits nordiques, et même un poème très très inachevé et fragmentaire autour du roi Arthur. Donc là, il s'agissait de montrer que Tolkien était un homme de son siècle, du XXe siècle. Quelqu'un qui, par son choix de l'imaginaire, peut-être rangé du côté d'Orwell, peut-être également pour le réalisme magique du côté de Gabriel Garcia Marquez, également de Borges, c'est certain. Il y a une rencontre d'esprit dans leur goût, dans leur centre d'intérêt, c'est évident au vu des publications.
Devant nous, sur le mur, la chronologie de Tolkien, Vincent Ferret, 1892-1973. Je note quand même une coïncidence singulière, 1916. Rédaction du livre des contes perdus, effectivement, serait-ce à l'image d'un Junger, à l'image d'un Bernanos, à l'image d'un Drieux, à l'image d'un Malaparte, Tolkien serait-il lui aussi un fils, son œuvre serait-elle aussi une fille des tranchées?
Absolument. Avant de partir à la guerre, Tolkien est un poète et un aquarelliste. Quand il revient, quand il est rapatrié parce qu'il est tombé gravement malade, quand il est rapatrié des combats de la Somme et des tranchées, il se met à écrire des textes en prose qui développent un imaginaire qui jusqu'alors ne s'illustrait que par aperçu, que par éclat à travers tel poème, à travers telle aquarelle. La continuité, la création de ce que parfois on appelle sa mythologie moderne, cette création naît en 1916 et va l'occuper pratiquement sur 6 décennies. C'est une œuvre vie absolument stupéfiante.
Limes. All the limes I'm sure, however old they are, they're lovely green in spring. I have always, for some reason, I don't know why, been enormously attracted by trees. Well, all my works are full of trees. I suppose I have actually in some...
Ainsi s'achève notre pérégrination dans l'univers de Tolkien, grâce à vous Vincent Ferret, donc qui êtes commissaire, co-commissaire de cette magnifique exposition donc Tolkien, voyage en terre du milieu, visible à la BNF à Paris, Bibliothèque nationale de France, sur le site Mitterrand. Jusqu'à quand ?
16 février 2020.
Je signale également la réédition en coffret donc chez Bragelonne de votre dictionnaire Tolkien, qui permet de même d'avoir des clés rapides pour au moins après se lancer dans de plus grandes pérégrinations. Je signale le livre co-dirigé avec Jean-Sébastien Steyer par Roland Lehoucq et Loïc Mangin chez Belin, Tolkien et les sciences. Merci messieurs d'avoir été ce soir les pèlerins en terre du milieu. Et puis si vous voulez avoir une vision synthétique, rapide, très attrayante du monde, monde de Tolkien, lire hors série, J.R.R. Tolkien, donc le magazine, lire, puis je remercie bien sûr toute l'équipe de la BNF d'avoir rendu possible cette émission et cette visite. Merci infiniment toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Claire Procidion, Claire Martin Dugard, Laurent Lucas, François Angelier, vous remercie donc d'avoir écouté Mauvais Genre ce soir. On se retrouve la semaine prochaine pour notre dernière émission de l'année consacrée à l'actualité du DVD. Et d'ici là, bonne nuit à tous.
Et laisse là-bas ces coupes jarrets et cette petite vermine toujours pendue à tes basques. Bonne journée.